Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, c'est reparti. En fait, ça s'est jamais arrêté puisqu'il y a toujours des rediffusions, même quand je ne suis pas là. Mais là, je suis de retour et des histoires aujourd'hui qui sont en fait que la continuation. J'ai retrouvé une émission non faite, toujours avec les textes de Serge Peille, ses récits d'enfance et de guerre qui s'intitule « Le trésor de la guerre d'Espagne » que vous pouvez trouver aux éditions Zulma. Donc deux histoires. D'abord la postface, tiens, on va commencer par la postface, puis après je lirai l'histoire de la bibliothèque blanche. Il n'y a pas assez de lits dans la cabane qui s'élève à un jet de pierre de la coopérative de pêcheurs. Ma mère a pris trois chaises pour faire un lit. Elle retourne la première chaise, le siège face au mur. Elle place la seconde à l'envers, c'est-à-dire le dossier contre le mur. Et la troisième enfin, de nouveau, le siège face au mur. De cette façon, on ne risque pas de tomber. Et l'on peut dormir jusqu'à l'aube, avant l'arrivée des bateaux. Mon père et ma mère dorment sur le grand lit en compagnie de ma sœur, blottie contre un angle avec une poupée de chiffon. Mon oncle a hissé un matelas sur la table de la cuisine à cause des scorpions, dit-il. Il dort entre la fenêtre et la porte, juste un peu à gauche de la trappe-mouche qui pend du plafond. Mon père lui a dit de faire attention, de ne pas s'y coller les poils. El mosquito et tout le reste. Un rire a secoué la cabane. Moi, je n'ai pas compris ces mots. Je n'ai pas non plus demandé qu'on les traduise. Les mots sont comme des mouches qui s'échappent des lèvres. Les mots se collent sur les choses. Et les mots qui n'ont pas de choses restent avec les mouches du ruban qui pendent à côté des genoux menacés de mon oncle. Je pense qu'il faut sûrement attraper les mots pour inventer les choses. Les mouches qui s'échappent du ruban sont autant de choses en devenir qui naissent ainsi pour moi toute la journée, derrière la coopérative des pêcheurs. Entourée de roseaux, la cabane sur pilotis est colmatée de bois de récupération et de plaques de goudron, d'alvéoles d'œufs, de tôles et de carton. Deux gros pneus remplis de géraniums trônent à l'entrée de la palissade. Il y a deux pièces dans la cabane. Un poste de radio, une table et des chaises de paille. Un gaz en équilibre sur des parpaings chauffe la soupe de poisson sous la fenêtre. Trois photos sur le poste de radio et un calendrier dessinent des yeux contre la paroi. Il y a un chien dans la maison et un chat. Et le chien et le chat dorment ensemble devant la porte. Le chien rentre chaque matin dans la chambre et nous lèche le visage pour nous réveiller. À l'entrée, on doit un rideau de capsules métalliques de bouteilles. Ces vagues tintent comme de petites monnaies lorsque la tramontane souffle. Je marche vers la mer pour la première fois. À travers les roseaux et les buissons d'air, les oiseaux réveillent les arbres en même temps. Un homme me donne la main. Des ombres bougent devant nous et nous rattrapent inlassablement dans la pâleur. J'ai peur de mon ombre comme un chien et je me retourne pour la mordre. Mon père me donne la main de plus en plus fort. Soudain, on respire l'odeur des sardines et l'on voit le soleil qui sort derrière les barques. Puis, on entend la mer. On l'avait déjà entendue depuis longtemps, mais maintenant, elle vient dans toute sa puissance. Je lâche la main de mon père et je me mets à courir vers son bruit et sa couleur. Puis mon père se met à crier « Arrête ! Reviens !» Mon père saisit mon bras juste avant que je ne touche la salive qui recouvre le sable. Il me crie « Ne touche pas la mer !» puis il me prend dans ses bras pour regarder la mer qui avance sur nous. Nous contemplons ensemble, sans le savoir, quelque chose de plus loin que la mer. Un vieux chiffon, une île. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'oiseau. On n'entame plus vraiment que le bruit de la salive sur la terre. Une boule de salive s'enroule dans ma gorge et mon père me dépose sur le sable. Je sens le retirement infini de la mer entre mes doigts de pied. Mon père se met à genoux à mes côtés. Il serre mes mains entre les siennes et lentement, il se met à parler pour lui seul. Je ne comprends pas de suite ce qu'il dit. Nous étions 2000. Alors il répète, nous étions 2000 entourés par les barbelés. J'entends aussi une respiration, la sienne, nos deux respirations, puis la respiration de quelque chose d'autre qui respire sous le sable. Mon père me prend par les épaules, me retourne vers lui et me dit, ici, des soldats nous gardaient montés sur des chevaux. Je comprends les mots. Des barbelés, j'en ai vu déjà à l'entrée du village. Je sais aussi ce que sont des soldats. J'en ai vu. Je sais ce que veut dire 2000. 2000, c'est beaucoup d'hommes. 2000, c'est tous les oiseaux, c'est tous les chiens, c'est tous les arbres. 2000 oiseaux, 2000 chiens. Mais je ne connais pas 2000 hommes. Je ne connais que mon père qui est un seul homme, né quelque part, dans une ville d'Espagne, rue Victor Praderas, derrière la gare. Mon père prend du sable à pleine main. Ici, un soldat est entré dans la mer tout entier avec son cheval. Et continua en répétant, nous étions 2000 dans ce camp. Le soleil, comme un jaune d'œuf, est entièrement sorti de la mer. La salive, en nous abrançant les pieds, vient cracher sur nos cuisses. Le jaune est devenu plus rouge au-dessus de l'horizon. L'air se sépare de l'eau et des oiseaux sont en train de naître dans l'air et ne savent pas encore voler. Mon père dit, écoute, on va entendre la mer. Les coquillages sont les os brisés des hommes. Je ramasse ce qui m'appartient de la mort contre la mort. Et je vois des portes sur la mer qu'on ouvre avec des cheveux de femme. Je vois encore des hommes enfoncer des miroirs dans la mer pour qu'elle s'en regarde comme un dimanche. Les coquillages sont les dents de lait du soleil qu'il perd sur le monde tous les soirs en mourant. Toute la journée, j'ai l'âge du soleil. Je ramasse un coquillage et je l'écoute pour voir s'il est plus fort que la mer. Je dis à mon père, j'ai entendu une autre mer. Le coquillage entend la mer et aussi les choses secrètes du monde. Le coquillage est aussi une oreille arrachée du soleil. Ce coquillage était là quand mon père était 2000. Et cet oiseau, et ce chien qui aboie derrière lui, et aussi ce papillon dentelé battant des ailes sur une boîte de conserve rouillée. Un peu plus haut, le soleil est devenu jaune d'œuf, encore plus rouge dans le ciel. Je vois passer un bateau, puis deux bateaux. Le bleu devient très loin dans la mer. Nous étions nus et les soldats nous menaient ici, chez nos dysenteries. Je savais ce qu'était la dysenterie. J'avais eu mal au ventre et ça avait duré plusieurs jours. Cette plage était notre chiotte, c'est la mer qui nous lavait les fesses. Imagine, 2000 culs gardés par des soldats. Je regarde la mer que j'écoute dans le coquillage. J'entends aussi les mots de la cabane échappés de la trappe-mouche qui deviennent des choses devant moi, comme les mots de la mer et les choses de la mort. Soudain, je vois dans le coquillage un homme nu accroupi dans la mer. Je vois aussi un soldat et puis des charrettes sur lesquelles on entasse ceux qui sont morts dans la nuit. Et puis aussi d'autres hommes accroupis dans la mer et d'autres soldats. Je me baigne. Demain aussi, j'irai me baigner. Cela fait 3 jours que je me baigne. Puis la mer est tombée dans sa fosse de plumes blanches. La mer s'enfonce dans la mer. Elle s'enfonce dans l'oiseau. Elle s'enfonce dans le ciel. Je la regarde qui creuse un tunnel dans la lumière. Cela fait 3 fois que je me baigne. Plus tard, je dis à ma mère dans la cabane, « Mon père, il était 2000 et chié dans la mer, gardé par des soldats. » Ma mère a dit, « Mon père, qu'as-tu raconté à cet enfant ?» Et mon père a répondu, « Rien. » Je ne lui ai rien raconté.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra en que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. ¿Quién será posible que esa hermosa mañana ni tú y ni el otro la lleguemos a ver? Pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como el viento que arrastre los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al
Servane, que vous n'entendrez nulle part ailleurs que sur CFM, puisqu'elle a été enregistrée en direct à cette forme. C'est compte à rebours, toujours, des textes de Serge Peille, extraits du Trésor de la guerre d'Espagne. La bibliothèque
Tout Blanche. Le quartier dit que l'homme qui habite à la sortie du village a une bibliothèque. Je me suis arrangé pour le rencontrer un soir, alors qu'il rentrait du café. On dit qu'il est docteur, ou même que c'est un moine. J'hésite à l'appeler docteur, car il marche vraiment à la manière d'un moine. En été, comme en hiver, il porte des nu-pieds. Mais je l'appelle docteur, comme tout le monde. Je l'aborde un soir, alors qu'il sortait du café, en lui disant « Docteur, on m'a dit que vous aviez une bibliothèque. Pourriez-vous un jour me la montrer, s'il vous plaît ?» L'homme se met à rire. Il me demande pourquoi. Je lui réponds que je n'ai jamais vu de vraie bibliothèque. J'ai peur de ma peur, mais pas de cet homme. Il me fait entrer chez lui en riant. Il vit dans une pièce unique. Une partie du lit est sous la table où il mange. La vaisselle est à côté de son oreiller. Malgré le désordre, la pièce est toute blanche. Au début, je me demande où sont les livres. Je ne les vois pas. Puis très vite, je m'habitue et je comprends. Je suis vraiment dans la bibliothèque, mais on ne peut voir les livres contre les murs. Les livres sont tous à l'envers. Et ce qu'on croit être la couleur des murs, c'est leur trace blanchâtre. Le docteur a rangé ses livres, non la tranche contre le mur, mais le dos au mur, comme si on avait retourné un tableau ou une photo. Pas de titre. Pas de nom d'auteur, pas de collection, simplement le moutonnement blanc d'une mer qui s'est arrêtée de bouger dans l'écume d'une vieille plage. Sur les étagères, elles aussi peintes d'une couleur blanchâtre, on ne décèle qu'une suite infinie de blancs qui ondulent comme de la neige sale. Le docteur ne veut pas qu'on sache ce qu'il lit. Peut-être que le nom des auteurs et les titres des livres l'empêchent de se concentrer pour écrire ses livres. C'est peut-être la raison pour laquelle il retourne ses livres. Mais comment chercher un livre sur ses étagères ? Le docteur doit posséder des milliers de livres. Je lui demande comment il fait pour les reconnaître. « Je les connais tous », répondit-il en caressant les tranches d'un rayonnage à l'envers comme un clavier de piano. « Toi aussi, tu les connaîtras tous. Je vais t'apprendre. » Avant de lire un livre, il faut le reconnaître. Ce n'est qu'après qu'on le lit. « Reviens demain. Je t'apprendrai. » On est demain. Sur ses ordres, je retourne à la première étagère. Je ne comprends rien au titre, mais il me plaise. Le docteur n'a pas classé sa bibliothèque par non-auteur, mais par titre. Il a un cahier, tout blanc lui aussi, où il a recopié tous les titres. Les titres se succèdent comme une suite de vers dans un poème. Zhuangzi, les tablettes intérieures, Simone Veil, attente de Dieu, Alain, vingt leçons sur les beaux-arts, Husserl, la crise de l'humanité européenne et la philosophie, Kant, traité de pédagogie, Althusser, solitude de Machiavel, D'Alembert, dialogue entre Descartes et Christine de Suède, Anaximandre, fragments, Aristote, éthique à Nicomaque. Le docteur me fait apprendre par cœur les titres. Tous les jours, j'apprends un titre et un auteur. Tous les soirs, quand je reviens chez lui, je les lui récite. Puis, chaque semaine, il me fait réciter tous les auteurs et les titres de la semaine. Quand je vais le voir à la sortie de l'école, il a replacé les livres à l'envers sur l'étagère. Au début, il a commencé par me faire réciter le nom des livres et des auteurs, puis peu à peu, c'est lui qui disait les titres et les auteurs. Il fallait que je les découvre uniquement sur le mur à travers leurs tranches. J'apprends très vite. Le docteur est très content. Il me dit que je vais devenir, moi aussi, un philosophe. Ce matin, il me questionne sur le dixième rayonnage. Cherche-moi les entretiens sur la pluralité des mondes. Je regarde les tranches blanches du dixième rayonnage et délicatement j'extrais l'ouvrage au milieu des autres sans me tromper. C'est Fontenelle qui a écrit ce livre. Puis immédiatement, il commande comme dans un jeu Fourier, égarement de la raison démontré par les ridicules des sciences incertaines. Le livre est au troisième rayonnage, je le sais. Sa tranche est plus jaune que celle des autres. Ce n'est pas tricher que d'avoir remarqué cela. Je le saisis et je le lui porte. Je crois parfois que le docteur est fou. Maintenant, 2 années se sont écoulées. Je possède toute la bibliothèque dans ma tête. Je peux la réciter et je connais ses géographies. Je sais où se trouve chaque livre, sans hésitation. Les blancs des pages des livres n'ont pas les mêmes teintes. Par exemple, le rôle du travail dans la transformation du Saint-Jean-Homme de Friedrich Engels a une tranche blanche aux pages épaisses comme des buvards. À côté figure le fameux manuel d'Épictète à la tranche jaune fine et serrée. L'éloge de la folie d'Érasme a les pages d'un blanc presque gris. Avec les ombres blanches, crémeuses et jaunies des tranches, je suis comme un esquimau. Je sais faire la différence entre les blancs. J'ai lu dans un livre que les Inuits ont une 40aine de mots pour désigner la neige. Le docteur me fait faire des phrases avec les titres des livres, puis des poèmes, quand j'ajoute ces phrases les unes aux autres. Je connais chaque tranche de livre comme le vers d'un poème. Je remarque que le docteur a glissé une feuille de papier chaque 14 livres. Il me dit que 14, c'est le nombre de vers dans un sonnet. J'ai appris ce qu'est un sonnet et je récite maintenant tous les jours le « Des dix chalots » de Gérard de Nerval. Maintenant, je n'ai plus besoin de retourner les livres pour connaître leurs titres. Je peux sans hésitation réciter les titres comme des poèmes. Le début du premier rayonnage, en lisant en aveugle sur le blanc des tranches, donne ce poème. de l'unité et de la trinité divine est un livre du licite et de l'illicite. Et l'allégorie des poètes est toujours un texte inédit. Comme le livre des fleurs, les chemins qui mènent à la parole est une leçon sur la logique, ou bien l'essai d'une critique de toute révélation. Si de l'esprit de l'humanité est l'art de la vie, il est aussi un discours de la servitude volontaire. Le rossignol instrumental proclame une réforme de la dynamique devant une question disputée sur la vérité. Maintenant, je connais toute la liste des livres de la bibliothèque, dans son ordre et ses parties. Avant l'heure de l'école, le docteur m'entraîne comme un coureur. Il me cite le titre d'un ouvrage que je dois trouver immédiatement. Je monte sur un escabeau et je le saisis, sans hésitation. Je suis devenu aussi fort que le docteur. Je sais tous les titres et tous les poèmes de la bibliothèque à l'envers. Je comprends qu'un poème n'est fait qu'avec des titres. C'est pour cette raison que je balbutie. Parler, c'est organiser la jonction entre les titres du monde. Dans un poème, chaque vers contient tout un livre. Le docteur m'a dit ce matin, en me désignant la bibliothèque, « Maintenant, tu peux lire. » Le docteur était fou. Sa bibliothèque n'avait qu'un seul livre, le livre de tous les poèmes qu'il avait écrits avec ses titres. Ce jour-là, je commençais lentement à lire à l'intérieur des livres. La bibliothèque était blanche. La lumière glissait sur la blancheur des livres. Dehors, il neigeait. Je regardais les traces d'un chien qui marchait sur la route, comme les caractères d'une imprimerie que personne n'avait inventée. Voilà, c'était Marco, compte à rebours, des textes de Serge Peille. Bien à la semaine prochaine.